Bonjour et bienvenue à tous à bord du vol 2. Ça fait envie de rêver, non? Ça donne envie de vacances, surtout en cette période-ci, pas vrai? Mais aujourd'hui, nous atterrissons à notre destination finale, la Odyssée. Nous avons fait un magnifique voyage en Asie mineure à travers les sept lettres que Christ écrit aux sept églises dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Et d'habitude, nous entendons toujours dire qu'on garde le meilleur pour la fin. Mais je pense que Christ n'était pas de cet avis, parce que lui, il a gardé la pire église pour la fin. Vous verrez dans sa lettre que la Odyssée est une église qui n'est pas triste. Et voici le menu que je vous ai concocté pour ce matin. En guise d'apéritif, nous allons découvrir la lettre dans son entièreté. En entrée, on aura un petit bout d'histoire sur la Odyssée et la ville. Et ensuite, nous attaquerons le plat principal où nous reviendrons sur les sections importantes de la lettre et nous verrons ce que Christ avait à dire à la Odyssée et aussi à nous. Et ensuite, pour le dessert, vous verrez bien, mais je vous promets quelque chose plein d'amour et de tendresse. Mais avant cela, prions. Seigneur, oui, toi qui es ici, Seigneur, ce matin, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as au contrôle cette crise du coronavirus, Seigneur. Je te remercie pour chaque personne qui est là ce matin, Seigneur. Je te remercie pour chaque âme qui nous écoute. Seigneur, je te prie que tu bénisses les anglophones de LifePoint ce matin, Seigneur. Que le message de Jordan touche leur cœur, prépare leur cœur à l'avance, Seigneur. Seigneur, que nous puissions comprendre et appliquer le message que Christ avait donné à Laodicée, Seigneur. Parce que je suis convaincu qu'il s'applique encore à beaucoup d'églises en ce jour. Seigneur, que ce ne soit pas mes mots, mais que ce soit tes mots et tes paroles à ton Église à travers ma bouche. Seigneur, tu nous aimes et nous t'aimons, Seigneur. C'est en ton nom précieux et au nom de Jésus-Christ que je te demande ces choses. Amen. Donc prenez votre Bible dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 14. Alors, si peut-être vous n'avez jamais eu de Bible entre vos mains, si vous n'avez jamais lu la Bible, c'est très facile. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible qui se trouve donc tout à la fin fatalement. Donc, il faut prendre le grand chiffre 3 et le petit chiffre 14. Et voici ce que nous dit Christ dans sa lettre à Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. L'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède appliqué sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'y va pas de main morte, pas vrai? Vraiment, Christ n'avait pas peur de dire les choses lorsqu'il parle, par exemple, dans les évangiles à ses disciples ou aux pharisiens. Mais ici, allez dire, je vais vous vomir de ma bouche. C'est très fort comme parole. Et j'espère que vous n'êtes pas en train de manger ce matin, parce que c'est vrai que ça peut être un peu ragoûtant d'entendre cela. Mais je vous propose de faire connaissance avec Laodicée. Laodicée était une ville qui était située dans la vallée de la rivière Lycus, à environ 70 km au sud de Philadelphie. C'était en fait des sept églises, celle qui était le plus à l'est. Et elle était voisine avec Hierapolis et avec Colosse. Elle a été fondée par Antiochus II, un gouverneur syrien, qui a donné ce nom en hommage à son épouse Laodice. Après, ils se sont divorcés, mais le nom est resté pour la petite histoire. Et les ruines de la Odyssée se trouvent aujourd'hui dans l'actuelle Turquie sous le nom de Eski Asar, qui veut dire en fait vieille forteresse. Et la Odyssée était vraiment bien développée au niveau du commerce. Elle était réputée pour son secteur banquier, pour la vente de vêtements en laine noire et pour son école de médecine, qui notamment avait trouvé un remède pour les yeux qui s'appelait le collyre, qui était en fait comme une baume qu'on mettait sur les yeux irrités. Il est inutile de vous dire que Laodicée est une ville riche, très très riche, et qui, comme la plupart des autres villes qu'on a vues dans notre voyage, a été détruite par un tremblement de terre. Mais contrairement à Sardes, qui, rappelez-vous, avait reçu un support financier de Rome pour se reconstruire, ce qui avait aussi provoqué beaucoup d'admiration du peuple de Sardes envers Rome, ici, non, Laodicée dit à Rome: moi, je permets le luxe de te renvoyer ton argent parce que je peux me reconstruire moi-même. Et cela vraiment me montre une chose, et c'est mon analyse personnelle, que c'est une ville arrogante, Laodicée. Ok, elle avait les moyens, on vient de le dire. Mais allez oser dire à Rome: garde ton argent, je n'en ai pas besoin, il faut vraiment être culotté de dire ça. Et c'est aussi une ville qui comptait une grande population juive. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres villes, on a vu ça ensemble. Et cette population était mélangée à la population païenne. Alors, il y a des historiens qui disent qu'en fait, ils étaient très laxistes dans leur judaïsme. Ils avaient même tendance à abandonner le judaïsme et à se convertir à la culture païenne. Et l'église de Laodicée, alors, dans tout cela? Ben, l'église de Laodicée est une église non-croyante. Une église qui n'est pas convertie. Et comme Sardes, Christ ne dit rien de positif par rapport à Laodicée. Même pas une toute petite louange. Rien du tout. Et encore à Sardes, là, il y avait encore quelques croyants. Rappelez-vous, Jésus dit: je sais que parmi vous, certains n'ont pas souillé leurs vêtements. Mais ici, il n'y avait aucun croyant dans cette église. C'était une église où Christ n'était pas présent. Attaquons maintenant notre plat principal et revenons au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Alors, on a l'habitude qu'au début de chaque lettre, Christ s'identifie et utilise aussi des attributs divins. Et ici, par exemple, il dit qu'il est l'Amen. Mais que signifie cela? On a l'habitude dans nos églises que quand on termine une prière, on dit « Amen ». Moi, par exemple, je ne me suis jamais posé la question de pourquoi on disait « Amen ». On m'a dit « voilà, ben, quand la personne termine la prière, on dit « Amen » comme quoi en signe qu'on est d'accord avec elle ». On voit aussi des personnes dans les églises qui disent, lorsqu'un pasteur déclare quelque chose avec laquelle ils sont d'accord, « Amen, Amen ». Mais en grec, « Amen » veut dire « en vérité » ou « vraiment ». Donc quand Jésus dit « en vérité, je vous le dis », c'est comme s'il disait « Amen, Amen, je vous le dis ». Ça déclare que la déclaration qui est après « Amen, Amen » est en fait vraie. Et là vous me dites peut-être « Oui, c'est bien, Raphaël, tu nous as donné un petit cours de grec, maintenant on a appris quelque chose, on sait que « Amen », ça veut dire « en vérité ou vraiment », mais quel rapport avec Jésus ?» Il faut savoir que Laodicée, tout comme sa voisine Colosse, avait rejeté la divinité de Christ. Pour lui, c'était juste une présence angélique, une entité. Mais ce n'était en aucun cas Dieu. Et donc, quand Christ leur dit « Je suis l'Amen », il veut leur faire comprendre qu'il est la vérité, que tout ce qu'il dit est vrai, que tout ce qu'il fait est vrai, qu'il est fidèle et véritable dans tous les temps, et qu'il ne change pas. Et si nous regardons à 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, voici ce que Paul dit. « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est aussi par lui que nous disons « Amen » à Dieu pour sa gloire. Les promesses de Dieu sont donc accomplies en Christ. Christ est un signe que Dieu accomplit en lui ses promesses. Il est celui qui confirme toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il est l'Amen. Et dans ce verset 14, en Apocalypse 3, il dit aussi qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Cela veut dire qu'il est là depuis le début. Rappelons-nous comment commence l'évangile de Jean, donc chapitre 1, les 4 premiers versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Au commencement, Christ existait donc déjà. Et ça ne veut pas dire justement qu'il est le premier-né de la création. Non, ici, ça veut dire qu'il est Dieu et que lui a créé les choses. Christ a tout créé, comme on dit en latin, ex nihilo, à partir de rien. Ça veut dire quand tout était ténèbre, c'est lui qui a tout créé. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et le final. Il est saint, saint, saint. Maintenant, regardons les versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Voici les versets que beaucoup de gens certainement connaissent et ont entendu peut-être des dizaines de messages de prédicateurs sur ce passage. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Laodicée était voisine avec Hierapolis et Colosse. Et bien qu'elle était très riche, elle ne pouvait pas subvenir aux besoins d'eau de sa population grandissante. Et la rivière de la vallée où elle se trouvait n'était pas exploitable, notamment parce qu'une des rivières se séchait sous la chaleur. Donc qu'est-ce qu'elle a fait pour pallier à cela? Elle a construit les aqueducs afin d'apporter l'eau depuis Hierapolis et Colosse. Hierapolis était connue pour sa source d'eau très 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 chaude. C'est une eau qui était excellente pour ses vertus médicinales. Et à l'opposé, Colosse avait une eau très très froide, rafraîchissante, une eau très fraîche et glacée comme à la montagne. Mais lorsque ces eaux faisaient le chemin via l'aqueduc et arrivaient à Colosse, elle était tiède et elle contenait plein d'impuretés. À un tel point que si on la buvait, on avait la nausée et une envie de vomir. Donc Laodicée comprend très bien ce que Christ veut dire dans ses propos. Et l'attitude de Laodicée répugnait tellement Christ qu'il dit « Je vais te vomir de ma bouche ». J'aimerais quand même clarifier quelque chose sur ces versets. Parce que souvent, ils sont mal compris par les personnes. Jésus ne dit pas aussi ici qu'il veut qu'il soit super spirituel, c'est un super chaud, ou qu'il dise « Oh, ça ne nous intéresse pas, on est froid, on s'en fiche ». Parce que c'est ainsi que certaines personnes lisent ce passage. Le problème de l'eau dans l'illustration de Christ n'est pas la température, mais la proximité de la source. Et parce qu'ils sont loin de Christ, parce que les gens de cette église n'avaient pas de communion avec lui, qui ne passaient pas du temps dans la parole, qui ne le recherchaient pas dans la prière, et qui ne s'encourageaient pas les uns les autres, ils sont devenus inutiles aux yeux de Christ. En tant que croyants, mes amis, nous devons vivre près de la source. Jésus rafraîchit comme un verre d'eau froide par une journée chaude. Et il apaise nos âmes endolories comme l'eau chaude apaise les muscles endoloris. Les églises et les chrétiens qui sont simplement tièdes ne peuvent pas offrir au monde un Jésus satisfaisant. Et c'est ça qui rend Dieu malade. Et Laodicée, en plus d'avoir refusé la divinité de Christ, ils ont rejeté Christ en lui faisant comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus dans l'Église et qu'ils n'avaient pas besoin de Christ, que Christ n'était pas bienvenu. Laodicée se sentait autosuffisante, riche, assez, et elle ne voyait pas ce que Christ pourrait lui apporter. « Oh, d'abord, on va faire nos choses, on est assez riche, on verra bien après si Christ peut nous apporter quelque chose. » Et cela directement me rappelle la déclaration de Christ en Matthieu 6, 24 et en Luc 16, 13, quand il dit « On ne peut pas servir Dieu et l'argent. » Et visiblement, Laodicée a fait son choix. « Money, money, money. » Comme le groupe Abba, vous vous souvenez de la chanson? Les membres de l'église avaient probablement fait leur prière de conversion. Ils s'étaient fait baptiser et avaient rejoint l'église de Laodicée. Mais leur vie ne changeait pas. Et mes amis, il ne suffit pas de dire « Je suis chrétien, moi je crois en Dieu, je suis chrétien. » C'est juste une étiquette. Beaucoup de gens disent cela, et quand on regarde à leur vie, elles reflètent tout sauf leur croix, leur foi en Christ. À Laodicée, comme on l'a dit plus haut, il n'y avait aucune communion ni relation avec Christ, pas d'intimité avec le Père. Ils ne connaissaient pas Christ, ils n'avaient rien compris à son sacrifice pour nous à la croix. Et malheureusement, de nos jours, il y a des milliers, peut-être même des centaines de milliers d'églises comme ça, comme Laodicée dans le monde. Des églises qui rendent Christ malade, qui lui donnent la nausée, qui le répugne. Mais une fois que nous comprenons la grâce, le sacrifice de Christ, et que nous apprenons à le connaître, il s'opère une transformation radicale dans notre vie. C'est-à-dire que nous ne serons plus jamais les mêmes. Un jour, dans une de ces prédications, Pat Oud, donc si vous nous rejoignez pour la première fois, Pat Oud est en fait le senior pastor, comme ils disent en anglais, donc le pasteur principal de toutes les églises LifePoint. Et il a dit ceci dans un de ses sermons. Je déteste la religion et j'aime Christ. Ce qu'il a voulu dire aussi, c'est que la religion change ton caractère, mais Christ transforme ton cœur. Et c'est ça le point. Une transformation implique un point de non-retour. Une fois qu'il transforme notre cœur, nous ne reviendrons plus jamais à notre état précédent. Regardons maintenant le verset 17 à 19 et la manière dont Christ les fait descendre de leur nuage. Verset 17. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ici, au verset, Christ leur donne une grosse baffe et dit, réveillez-vous! Tu dis que tu es riche, mais tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et nu. En d'autres mots, ton argent, tous tes biens matériels, ta laine noire, ton école de médecine, ce produit qu'on appelle collyre sont rien devant moi. Tu crois que tu n'as pas besoin de moi, mais mon ami Laodicée, tu es tellement misérable et pauvre et nu et sans défense devant le Père. C'est bien cela la vérité, mes amis. C'est que nous pouvons avoir tous des biens, des richesses, plein d'argent, des grosses voitures, des grandes maisons. Et je ne dis pas que ces choses sont mal, mais ce n'est pas ça qui va nous justifier, ni acheter notre ticket pour le ciel devant le Père. Et je pense que la claque et le seau d'eau froide que Christ leur jette à l'Odyssée est pour leur bien, afin qu'ils se réveillent et se détournent de leur mode de vie et se tournent vers Christ. Et maintenant, voyons la grâce qui est déversée aux hypocrites. Christ leur dit qu'il leur conseille d'acheter chez lui de l'or purifié par le feu, c'est-à-dire d'avoir une foi solide à toute épreuve. Et regardez ce que 1 Pierre 1, 7 nous dit. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ayons une foi solide qui nous mènera à glorifier Christ, à le louer et à faire tout notre possible pour l'honorer dans notre vie au quotidien. C'est de cette foi-là que Christ, c'est de cet or-là que Christ parle et leur propose d'acheter. Et lorsqu'il parle de vêtements blancs, moi je pense qu'il se réfère à la justice dont il nous revête lorsqu'il nous justifie, c'est-à-dire lorsqu'il nous déclare juste à la croix. Lorsque nous nous présenterons devant le Père, à notre mort physique, comme je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, nous serons revêtus de la justice, donc il nous verra blanc comme neige, il ne verra plus nos péchés. Et nous pourrons alors jouir d'une éternité avec lui dans le jardin d'Éden. Mais cela n'est seulement possible que pour ceux et celles qui ont accepté Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Et j'espère que c'est votre cas ce matin, et si ce n'est pas le cas, sachez que je prie le Christ pour qu'il vous ouvre les yeux, comme il ouvre les yeux de Laodicée, et lui dit d'appliquer le collyre, cette baume, sur ses yeux afin de voir. Et il termine cette section avec une magnifique petite perle. « Je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. » Il se réfère en fait à Proverbe 3:12. Car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qui chérit. On fait une petite pause ici et moi j'aimerais bien vous confesser, j'adore le livre au Proverbe. Et lorsque je n'étais pas croyant, un pasteur en Espagne qui est un ami, un mentor à distance pour moi, m'a dit, puisque tu ne veux pas entendre parler de Jésus, je te propose de lire le livre des Proverbes. Lis le proverbe chaque jour correspondant au jour de la semaine. Donc par exemple, ce serait aujourd'hui, nous sommes le 3 avril, ce serait le proverbe 3. Et moi, j'ai pris ce défi, je l'ai pris au mot. J'ai commencé à lire les proverbes. Et je me suis rendu compte que malgré que ce livre ait été écrit il y a de nombreuses années, eh bien, il nous défiait, il relevait des problèmes de la société encore actuelle. Et c'est après que j'ai commencé à lire les évangiles. Et c'est là que ma vie petit à petit a été transformée par Christ, jusqu'au point où j'ai compris que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de lui et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et alors qu'on pourrait penser que Christ voulait envoyer en enfer Laodicée tellement qu'il lui donne envie de vomir, eh bien non, il l'aime. Et c'est pour cela qu'il la reprend et la corrige. Car lui, il aurait très bien pu dire, « Bon, écoute, voilà, tu as voulu faire l'hypocrite, eh bien, raisonne ton hypocrisie et tu brûleras en enfer lors de mon retour. » Mais non. Là est l'amour de Christ pour son peuple, pour son Église. Et peut-être que ton leader ou ton pasteur, un jour, t'a repris ou corrigé et que tu l'en as voulu après, en disant, « Celui-là, pour qui il se prend ?» Et sache que c'est par amour qu'il le fait. Pour autant, bien sûr, soit fait avec compassion. Car ça, c'est important. Lorsque nous disons quelque chose à quelqu'un, de le dire avec amour, avec compassion. En disant la vérité, il ne faut pas cacher la vérité aux gens, mais avec compassion, et ne pas être dans le jugement comme bien trop de gens sont. Regardons nos trois derniers versets pour aujourd'hui, 20 à 22. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Ok, bon, le verset 20, il est souvent utilisé dans des campagnes d'évangélisation ou lors de prédications d'évangélisation, mais en fait, il est mal utilisé dans la plupart des cas. Quand Christ parle d'ouvrir la porte, il ne parle pas d'ouvrir que nous ouvrions la porte de notre cœur, parce que ça, il n'a pas besoin de nous pour l'ouvrir. Non, ici, Christ est en train de dire, si quelqu'un entend ma voix, mais qu'il ouvre la porte, que laisse-moi entrer, que je te sauve, que je m'installe à table, et que nous ayons un moment de communion et d'intimité ensemble. Il parle de repentance, comme il les a déjà invités plus haut. Il les invite à s'aligner, à venir à lui ou à revenir à lui, afin d'expérimenter cette intimité avec lui et vivre dans sa vérité. Et peut-être ce matin, certains ont été touchés par ce message et vous vous dites, « Mais moi, en fait, je suis un chrétien tiède. » Et vous sentez l'ennemi qui commence à mettre en vous ce sentiment de culpabilité. Laissez-moi vous dire que réfutez cette culpabilité. Parce que ce n'est pas Christ qui met cette culpabilité en vous, mais bien l'ennemi. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Christ, parce qu'il vous aime. C'est pour cela qu'il vous reprend et vous corrige, peut-être à travers un ami, un leader, un pasteur de votre église. Et je voudrais néanmoins encore préciser une chose. Certains pensent qu'ils sont tièdes parce qu'ils passent par des moments de doute, de faiblesse, de détresse, des grosses épreuves. Mais ce n'est pas ça, selon moi, être tiède. Les plus grands leaders dans la Bible sont passés par des moments de doute, mais cela ne faisait pas d'eux des hypocrites. Car là, eh bien, selon moi, l'identité du chrétien tiède, il est plein d'hypocrisie. Il connaît peut-être toute la Bible par cœur et il aime le montrer. Dans n'importe quelle conversation, il va essayer de glisser un verset par-ci, par-là pour montrer qu'il connaît la parole. Et peut-être même que lors de la louange, il va commencer à sauter, à crier, à danser, « Hosanna, Hosanna, oui Seigneur !» Et qui dit « Amen, oui, Amen, Pasteur !» Mais dans son cœur et sa vie, Jésus n'est pas là. Pour lui, Jésus est secondaire, c'est peut-être une activité ludique du dimanche pour se donner bonne image face aux autres. Mais il n'est pas convaincu qu'il est Dieu, que Jésus est Dieu, qu'il peut tout et qu'il règne. Et ce matin, est-ce que vous pensez que Dieu peut toutes choses et qu'il règne en majesté? Pensez-vous qu'il peut toutes choses à tel point qu'il règne sur la crise du coronavirus, qu'il a tout entre ses mains, qu'il aura le mot final? Un jour, mon ami m'a dit en Espagne, « Tu sais, Raphaël, Christ regarde ton cœur, mais pas ta connaissance. Et il vaut mieux connaître 10 versets et avoir un cœur pour les âmes perdues que de connaître toute la Bible et avoir un cœur plein d'orgueil et non converti. » Avant de conclure, j'aimerais aussi tous nous mettre en garde Nous vivons dans une société qui peut très bien rapidement nous refroidir, et nous mener à devenir tièdes. Personne, mais personne n'est à l'abri de cela. Nous devons prier sans cesse à Jésus, qui nous descend de notre nuage et nous balance un seau d'eau froide pour nous réveiller, qui nous corrige et nous redresse, maintenant qu'il est encore temps. Et peut-être que ce matin, tu regardes ce live parce qu'on t'y a invité. Ou peut-être que tu vois un de tes contacts Facebook qui a partagé ce live et tu dis, tiens, par curiosité, il me parle tout le temps de LifePoint, je vais voir ce que c'est. Mais pour toi, Dieu n'existe pas. Et tu ne crois pas qu'il est Dieu. Tu ne crois pas en sa parole. Tu ne crois pas qu'il est mort pour nous à la croix et qu'il a ressuscité 3 jours après afin que nous puissions être pardonnés et avoir la vie éternelle. D'abord, laisse-moi te souhaiter la bienvenue. Au nom de tous les pasteurs, je veux que tu saches que si tu as des questions, ne reste pas avec ces questions. N'hésite pas à nous contacter là maintenant, un des pasteurs sur le live. Il y a Ray Levy, il y a Jordan Raybon, il y a Rob Lowe ou il y a Louise McRae qui sont en ligne et que tu peux facilement contacter. Ou si tu veux une réponse plus personnalisée, écris un email à info@lifepointchurch.be. info@lifepointchurch.be. Nous serons tellement ravis de répondre à tes questions. Mais je crois aussi personnellement que tu n'es pas là par hasard, mais plutôt que Jésus t'a personnellement invité à écouter sa parole et recevoir son invitation à te repentir, à le connaître personnellement et expérimenter sa grâce et son amour. Alors là, tu te dis, ça y est, celui-là, il essaye de me convertir. Non, moi je ne cherche pas à te convertir, parce que je ne fais pas le job de Dieu. Ça, c'est son job à lui. C'est son business, c'est lui qui convertit les cœurs. Ma volonté ce matin, c'est que tu puisses entendre la bonne nouvelle de Christ. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est qu'il t'aime tellement qu'il est venu sur terre pour toi, pour porter tes péchés à la croix et y mourir afin que tu puisses en lui gratuitement obtenir le pardon de tes péchés et expérimenter une vie éternelle avec le Père. Et si ce message t'a touché et que tu as envie de donner ta vie à Christ ce matin, n'attends pas que LifePoint se réunisse de nouveau physiquement pour le faire. Si Christ t'appelle à le faire ce matin, fais-le. Je t'invite à prendre note de 3 versets en Romains 3, 23, Romains 6, 23 et Romains 10, 9. Lis ces écritures et si tu es d'accord avec ces écritures, si tu as compris ces écritures, alors tu peux ouvrir la magnifique bouche que Jésus t'a donnée et prier, lui demander pardon pour tes péchés, lui demander d'entrer dans ta vie et de transformer ton cœur. Prions. Seigneur, oh merci Seigneur pour cette lettre à l'Odyssée. Tellement de choses, tellement de leçons, tellement d'enseignements peuvent être tirés, Seigneur, de cette lettre. Seigneur, tu nous donnes ta grâce. On voit à quel point on aurait pu simplement dire cette église, elle mérite l'enfer. Elle est tellement répugnante que tu as envie de vomir. Mais non, toi, ta grâce, Seigneur, est tellement plus importante que notre condition et notre péché. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu t'es fait homme. Et tu es venu dans ta création pour vivre une vie parfaite et porter les péchés de l'humanité à la croix, Seigneur. Je te prie pour toutes les âmes ce matin, Seigneur. Seigneur, que tu nous rafraîchisses lorsque nous sommes tièdes. Que tu nous donnes cette claque et ce seau d'eau glacée que nous avons besoin pour nous réveiller et retourner sur le bon chemin, Seigneur. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes peut-être qui nous regardent et qui ne croient pas en toi. Seigneur, que tu ouvres leurs yeux, comme tu invites Laodicée à ouvrir ses yeux et à se repentir avec zèle sans tarder. Seigneur, oui, maintenant que nous allons en chemin vers Pâques, que tu puisses ministrer nos cœurs, toucher nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions passer un moment de solitude, de méditation avec toi, Seigneur, sur cette semaine sainte, sur ce vendredi saint. Sur Pâques, Seigneur. Seigneur, Garde nos familles, protège-nous de ce virus, Seigneur. Car c'est en toi que nous voulons mettre notre foi. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme je le disais dans ma prière, Pâques approche, et peut-être que nous avons tellement entendu parler de ce coronavirus que nous avons oublié à quel point nous nous approchons tellement rapidement de Pâques. Et nous aurons des célébrations du Vendredi Saint, et le dimanche, nous célébrerons Pâques. Pâques, c'est un peu, pour nous les chrétiens, c'est un peu comme la Coupe du Monde de football, c'est une grande célébration, c'est une grande fête pour nous. Et vous allez aussi recevoir un dévotionnel, un guide de louange familiale cette semaine sur la thématique de Pâques. Et je vous encourage vraiment à vous rassembler ensemble, à prier en famille. On a tellement de choses à faire qu'on oublie l'essentiel, c'est de passer le moment aux pieds du Père, à étudier sa parole, à le prier. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Je vous aime. À bientôt.